Radio France Internationale, 13h en temps universel, 14h ici à Paris, l'heure du journal avec Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. 30 prisonniers palestiniens pour chaque otage israélien civil libéré par le Hamas. La première phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza doit entrer en vigueur demain à 8h30 heure locale. Un cessez-le-feu qui actera aussi le retour chez eux des déplacés gazaouis et l'entrée chaque jour de 600 camions d'aide dans l'enclave palestinienne. À la une également, des millions de TikTokers américains bientôt privés de leur réseau social préféré. Nous le verrons, l'application chinoise pourrait en effet être progressivement interdite aux États-Unis. Dans cette édition, nous serons également en Bolivie où Evo Morales dénonce la partialité de la justice. L'ancien président est notamment soupçonné de traite d'êtres humains. Et puis du sport et du tennis, et le carton de Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Le Français a écarté d'un revers de raquette le numéro 4 mondial. Ouverture de l'aide humanitaire, échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens et retour à Gaza des déplacés. Demain, dimanche, à 6h30, temps universel, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza doit entrer en vigueur. C'est ce qu'a indiqué ce matin le médiateur qatarien. Pour l'heure, les bombardements se poursuivent dans l'enclave palestinienne. Les médecins de Gaza assurent que 5 personnes sont mortes ce matin dans le quartier de Mawassi, à l'ouest de Khan Younes. Mais la trêve doit donc demain mettre un terme à 15 mois de guerre. Pour lancer un processus de libération, 3 otages israéliens devraient être échangés contre 95 prisonniers palestiniens. Parmi les autres mesures prévues dans l'accord, le retour chez eux des déplacés gazaouis actuellement réfugiés dans le sud de l'enclave. À Jérusalem, Sami Bourrelifa.
Dès le début de la guerre en octobre 2023, Israël ordonne aux habitants du nord de la bande de Gaza de partir. Plusieurs villes du nord de l'enclave sont alors quasiment vidées de leur population, déplacées de force dans le sud, comme Youssef, originaire de Gazaville.
Tout le monde est en train de se préparer pour retourner au nord. Personnellement, j'ai peur, j'ai vraiment peur d'y aller, de voir les décombres de ma maison, mes souvenirs, les endroits à Gaza. Gaza est complètement détruite là. Mais je vais y aller voir. Bien sûr que je vais aller voir.
Youssef devra toutefois attendre 7 jours après le début du cessez-le-feu pour entamer son périple du retour. C'est ce que prévoit l'accord entre le Hamas et Israël. Amand Bazrol est la coordinatrice des opérations d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. Dans le camp de déplacés d'Al-Mawassi, où elle travaille depuis 2 mois, la majorité des familles souhaitent rentrer chez elles, même si leurs maisons ont été détruites.
Si c'est replanter la tente sur le territoire qui était leur, c'est vraiment ce qui est important pour eux. Quand on est du nord, on est du nord, on n'est pas du sud. Donc c'est d'aller voir effectivement leur terre, aller chercher les gens qu'ils ont perdus, aller voir les familles. Il y a des familles qui sont séparées aujourd'hui. Il faut retourner chez soi et réinstaller et reconstruire chez soi.
Près de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés de force durant la guerre, soit presque la quasi-totalité des habitants de l'enclave. Sami Bourtembourg, Jérusalem. RFI.
Et pour ce qui est de l'aide humanitaire, le cessez-le-feu actera une augmentation de l'aide à Gaza. Depuis des semaines, seuls 40 à 50 camions d'aide sont autorisés à entrer quotidiennement dans l'enclave. Dès demain, 600 poids lourds chargés d'aide humanitaire prendront chaque jour la direction de la bande de Gaza. En Iran, 2 juges de la Cour suprême assassinés ce matin. Ils ont été tués à Téhéran devant le palais de justice par un homme armé. L'assaillant aurait ensuite retourné son arme contre lui, selon l'agence officielle de l'autorité de judiciaire iranienne. Je vous le disais en titre, la possible interdiction de TikTok inquiète aux États-Unis. 170 000 utilisateurs pourraient être privés bientôt du réseau social. Le texte, en tout cas, préconisé par la Cour suprême américaine, impose aux boutiques d'applications sur les smartphones de bloquer les téléchargements et mises à jour de l'application, et ce, dès dimanche. Reste à voir si la loi sera ensuite bien appliquée par le futur président Donald Trump. En tout cas, c'est tout un secteur économique qui pourrait s'écrouler. Justine Fontaine, des millions de TikTokers américains tirent tout ou partie de leurs revenus de l'application chinoise.
Aux États-Unis, près de 7 millions de personnes vendent des produits ou des services via TikTok. La plupart sont des femmes. Et ces derniers jours, certaines d'entre elles ont pris la parole sur le réseau social pour militer contre l'éventuelle interdiction de l'appli, comme cette patronne d'une boutique en ligne de vêtements.
En tant que petite entreprise, la possible interdiction de TikTok est vraiment terrifiante pour nous. Plus de 90% de nos ventes viennent de TikTok.
D'autres influenceuses soulignent, elles aussi, que l'algorithme de TikTok leur appelle permis de booster leurs ventes et même d'embaucher, à l'image de cette entreprise de produits de beauté.
On est passé de 10 000 ou 20 000 commandes par an à 3 millions l'an dernier. Grâce au succès qu'on a eu avec TikTok, on a pu embaucher 150 personnes. Maintenant, on veut nous retirer ça. Je suis dégoûtée.
L'an dernier, l'application chinoise avait payé à des influenceurs le voyage jusqu'à Washington pour faire pression sur les parlementaires et essayer d'éviter l'adoption de la loi par le Congrès. Pour autant, le réseau social ne va pas disparaître du jour au lendemain. S'il est interdit, il ne sera plus disponible dans les magasins d'applications depuis les États-Unis, ni mis à jour au fil du temps, mais il sera encore actif sur les téléphones des utilisateurs. Par précaution, les petites entreprises ont en tout cas déjà commencé à migrer vers d'autres applications.
Et le gouvernement de Joe Biden dit de son côté laisser à l'équipe de Donald Trump le soin d'appliquer ou non l'interdiction de TikTok. Le républicain a lui souligné que la décision de la Cour suprême devait être respectée, mais précise avoir besoin de temps. Donald Trump, qui prendra lundi les rênes des États-Unis, s'est entretenu d'ailleurs au sujet de TikTok, notamment avec le président chinois Xi Jinping, un appel qu'il a qualifié hier de très bon. En Argentine, Javier Milei doit lui rencontrer demain la directrice du FMI, Cristina Georgieva. Une entrevue à la veille de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, on en parlait. Alors que l'Argentine négocie actuellement un nouvel accord avec l'organisme financier, le président argentin espère compter dans ses négociations sur le soutien de Donald Trump, qu'il considère comme l'un des deux dirigeants les plus importants de la planète avec lui. L'actualité sud-américaine encore est la réaction de l'ex-président bolivien visé par un mandat d'arrêt. Evo Morales dénonce une justice partiale. L'homme politique bolivien qui souhaite revenir au pouvoir est soupçonné de traite d'êtres humains et d'avoir entretenu une relation en 2015 avec une adolescente de 15 ans. Correspondance à La Paz de Nils Sabin.
L'ex-président Evo Morales devait s'expliquer hier devant la justice. Il lui est reproché d'avoir eu une relation avec une mineure en 2015, de laquelle serait né un enfant un an plus tard. Pour l'ex-président, cette affaire est montée en épingle par le gouvernement et la justice et il s'agit tout simplement de persécution judiciaire. C'est pour cela qu'il ne s'est pas présenté devant le juge et donc que celui-ci a émis un mandat d'arrêt. Cette demande d'arrestation n'est en réalité qu'un demi-rebondissement dans cette affaire, car il existait déjà depuis octobre un premier mandat d'arrêt contre Evo Morales. Depuis cette date, l'ex-président est retranché dans son fief, le Chapare, entouré de ses soutiens. Et malgré les annonces répétées du ministre de l'Intérieur qu'une opération millimétrée est en préparation pour arrêter Morales, les forces de l'ordre ont été jusqu'à présent incapables de l'arrêter. Les soutiens d'Evo Morales avaient organisé cette semaine une importante manifestation pour dénoncer la crise économique, mais qui coïncidait aussi avec la convocation judiciaire de l'ex-président. Reste à savoir s'ils sont prêts à mettre en place des mesures plus radicales pour défendre leur leader, comme en novembre lorsqu'ils avaient bloqué le centre du pays pendant 24 jours. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Lui aussi est poursuivi, mais cette fois en Corée du Sud. Yoon Suk-yeol s'est exprimé 40 minutes devant les enquêteurs du tribunal de Séoul. Il tente de faire la lumière sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. C'était celle donc du président déchu en Corée du Sud. À pas chassé, on file maintenant sur les cours de l'Open d'Australie avec un exploit français à Melbourne. Gaël Monfils s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie. Il s'est imposé face au numéro 4 mondial, Taylor Fritz. Arthur Franc, un succès pour le Français acquis en 3 heures de jeu.
Un aïe sauté pour conclure et quelques pas de danse endiablés sur la Margaret Court Arena. Gaël Monfils a fait le show. Le Français a décroché une victoire de prestige qu'il a du mal à classer.
C'est du mal à avoir du recul, hein. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne victoire parce que je trouve que j'ai bien joué, j'ai réussi à être bien stable tactiquement dans ce que j'ai voulu faire tout le match, donc j'ai du mal à te la situer vraiment.
Il ne s'agit pourtant que de son deuxième succès en Grand Chelem contre un membre du top 5 après celui acquis contre David Ferrer à Roland-Garros en 2008. Vainqueur à Auckland la semaine dernière, Gaël Monfils tient une condition physique bluffante à 38 ans.
On va pas parler du passé, mais au moment où je me suis blessé, j'étais 14e mondial. J'ai arrêté un an, donc il faut remettre la machine, il faut remettre tout et tu vois, tout se remet progressivement en place, tu vois, j'arrive à jouer un petit peu plus, j'arrive à toujours avoir envie de jouer, déjà c'est cool, tu vois, de me déchirer et tout.
Papa d'une petite Sky, le Français n'a pas d'attente et c'est peut-être la clé, comme sa compagne Elina Svitolina, qualifiée pour les huitièmes de finale, il espère aller plus loin à Melbourne. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Et Gaël Monfils affrontera l'Américain Ben Shelton pour une place en quart de finale à Melbourne. RFI, 14h, bientôt passé 10 minutes ici à Paris.